avez dit la vérité, monsieur le ministre, mais vous n'avez pas dit toute la vérité. Et je demande même à la plénière de transformer cette question orale avec débat en une interpellation. C'est ainsi que le sénateur Mongoulou a conclu mercredi sa question orale avec débat après la réponse du ministre délégué aux Finances. Patrice Kitebi répondait également à d'autres questions des sénateurs à l'occasion de la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Mongoulou. C'est une semaine difficile pour les agents et cadres grévistes de la SONAS qui s'achève en lieu et place de trouver une solution paisible aux revendications salariales. La direction générale de la SONAS a fait appel à la police, non pas pour encadrer, mais plutôt pour bastonner les manifestants. La synergie des jeunes et étudiants catholiques de Kananga au Kasaï occidental a voulu savoir pourquoi les jeunes ont trop de mal à accéder à l'emploi après les études. C'était le week-end dernier au cours d'une journée culturelle organisée à Kananga. Les orateurs ont orienté et leurs différents exposés sur la préparation à l'emploi. Vous êtes les bienvenus, messieurs et dames, à ce nouveau numéro de Panorama économique sur Radio Okapi. Panorama économique qui reçoit Michel Somoué qui analyse et commente l'actualité économique de la semaine. Il est au téléphone. Monsieur Michel, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour Daniel et merci de m'avoir invité.
Dans ce studio, devant le micro, François Kadima et Daniel Tambizoni. François, bonjour.
Bonjour Daniel.
Et bonjour à vous, chers auditeurs. Bienvenue à Panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
Affaire d'État oblige, nous ouvrons Panorama économique par mercredi. C'était le rendez-vous du ministre des Finances avec le Sénat. Patrice Kitebi a répondu à la question orale avec débat initiée par le sénateur Mongoulou.
Le sénateur voulait savoir s'il est vrai que le ministère des Finances dispose de comptes ouverts dans les banques commerciales où sont logés des fonds destinés aux projets ou au fonctionnement du ministère. Mais aussi savoir comment plus de 687 millions de francs congolais sont sortis sans autorisation des comptes ouverts à Access Bank. Je vous propose d'écouter les réponses de Patrice Kitebi dans cet extrait de son discours mercredi au Sénat.
L'ouverture des comptes des projets auprès des banques commerciales a été motivée par le souci de garantir une mise en œuvre continue des projets du gouvernement. Cette pratique vise à assurer une gestion prudentielle et opérationnel des investissements qui sont inscrits dans le plan d'action prioritaire du gouvernement, la sécurisation des fonds dédiés au projet à travers l'ouverture des comptes dans les banques commerciales se révèle ainsi être une stratégie indispensable dans notre contexte pour atténuer les risques de défaut de trésorerie au moment où surviennent des échéances importantes de paiement dans le cadre de l'exécution de projets publics. Permettez-moi d'indiquer, honorable sénateur, que les services du ministère des Finances assure périodiquement le rapprochement entre les ordres de paiement que nous avons donnés et les mouvements constatés au débit ou au crédit de nos comptes permettant de déceler les irrégularités a posteriori. Dans toute relation d'affaires entre une banque et son client, l'existence d'écart entre les situations respectives de chacune des parties est en fait presque, on va dire, banale, qui se règle dans le cadre des exercices périodiques de réconciliation des comptes. C'est ça qui nous a permis, lors d'un contrôle de routine, de déceler les irrégularités dont le montant de 687 millions vous a été donc indiqué. Et que le ministère a réclamé auprès d'Access Bank l'extourne de plus de 687 millions de francs congolais que cette banque s'est engagée à régulariser au courant de ce mois de mai. Promesse a également été faite et obtenue de la banque de restituer le trop perçu sur les frais facturés.
Et en conclusion à cette réponse du ministre des Finances, l'initiateur de la question orale avec débat dit « Vous avez dit la vérité, mais vous n'avez pas dit toute la vérité, monsieur le ministre. » Et puis il a demandé à la plénière du Sénat de transformer cette question en une interpellation, mais c'est plutôt la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui a été adoptée par le Sénat. Vous avez suivi cette actualité avec nous, Michel Somoué. Les comptes du gouvernement auprès des banques commerciales, comment vous analysez cela et après on décèle auprès de Access Bank un trop perçu de plus de 687 millions de francs congolais.
Oui, Daniel. D'abord, de l'ouverture des comptes du Trésor dans les banques privées. Mais nous savons que la Constitution, dans la section qui régit les finances publiques, plus précisément à son article 176, confie à la Banque centrale la première mission, la toute première mission désormais de la Banque centrale d'après notre Constitution, c'est la garde des fonds publics. C'est en vertu de ces prérogatives que le constituant a données à la Banque centrale que la Banque centrale ouvre dans ses livres un compte dénommé le compte général du Trésor, qui est le compte habilité à recevoir et à gérer les fonds qui appartiennent au Trésor. On appelle les fonds publics. Mais nous savons aussi, de par la pratique et de par l'expérience, dans le besoin de l'efficacité de sa mission de mobilisation des ressources de l'État, je veux dire de la gestion des ressources de l'État, la Banque centrale peut conclure avec les banques privées des accords au terme desquels celles-ci peuvent ouvrir aussi à leur tour, dans leur livre, des comptes qu'on appelle des sous-comptes du compte général du Trésor. Et il reste de la responsabilité de la Banque centrale d'assurer le suivi et la garde de ces ressources-là également, quand bien même elles sont là-bas.
C'est-à-dire, lorsqu'un besoin se présente, le ministre des Finances, comment ça se passe? Il donne l'ordre au gouverneur de la banque et au gouverneur de la banque centrale de donner l'ordre aux banques commerciales pour l'exécution.
Les fonds publics sont déboursés sur ordre de paiement établi dûment par le ministre des Finances. Et l'ordre de paiement est toujours adressé à la Banque centrale du Congo qui l'exécute. Et la Banque centrale du Congo, dans son exécution, peut apprécier de la possibilité d'exécuter le paiement à partir d'une banque là où elle se trouve. Elle peut actionner n'importe quel compte. De toutes les façons, outre les comptes ou les sous-comptes du compte général du Trésor, la Banque centrale dispose elle-même aussi de comptes dans les livres de ces différents comptes. Et les relations entre la Banque centrale et les banques sont des relations classiques de tout client avec sa banque. La banque peut tirer des ressources sur son compte dans une autre banque par l'émission d'un chèque banque centrale qui circule. Donc je pense que le problème de ce côté-là ne devrait pas se poser, les choses sont très claires. Mais la difficulté c'est que, comme disent les juristes, ce qui n'est pas interdit est permis, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, une disposition spécifique qui interdit clairement au gouvernement d'ouvrir des comptes dans d'autres banques que la banque centrale. Alors le flou est permis par rapport à ça. Mais à ce moment-là, le débat ne devrait pas être trop focalisé sur la légalité ou non de l'existence d'un compte du Trésor dans une banque privée. Mmh.
Mais les mouvements qui se font sur ces comptes qui sont logés dans les banques commerciales, c'est ce qui importe maintenant.
C'est là qu'il y a le problème maintenant. Comment ces comptes sont-ils actionnés? Comment sont-ils gérés? Comment s'effectuent des mouvements? On prend le cas spécifique de Access Bank. Et on se rend compte dans la question et dans la réponse du ministre délégué, premier ministre, chargé des finances, que Access Bank s'est accordé la liberté d'actionner un compte qui appartient à un client, qui est l'État en l'occurrence, en sortant de ce compte jusqu'à 680 millions de francs congolais. Mais ça veut dire que les mouvements de ce compte ne sont pas de la compétence
du gouvernement,
du ministère du compte. Oui. Encore moins de l'organe qui est en charge de la garde des fonds publics, qui est la Banque centrale du Congo. Parce que ces mouvements effectués par Access Bank se sont faits à l'insu et de la Banque centrale ou du ministère des Finances. C'est ce que ça veut dire. Alors ça signifie qu'il y a un flou systématique dans la gestion de ce compte qui donc doit être considéré d'office comme étant un compte irrégulier. Non seulement il y a eu ce flou ou cet abus, il faut appeler ça abus du côté de Access Bank, mais on se rend compte en plus de ce fait que la même banque se permet dans ses transactions avec l'État de surfacturer.
Mais vous êtes monétariste. Est-ce que à voir ce qui se passe ici, est-ce que d'autres pays peuvent appliquer les mêmes mécanismes et arriver à des mêmes problèmes aussi?
Non. Ce qui est irrégulier est irrégulier. Mmh. La surfacturation est une irrégularité, naturellement. Que ce soit en Zambie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon ou dans n'importe quel pays d'Europe. Mais la surfacturation est une infraction. Ça, c'est clair. Mmh. Net. Parce que c'est du vol.
C'est une malhonnêteté.
C'est une malhonnêteté. Elle est répréhensible dans tous les pays du monde.
Et lorsque le ministre des Finances dit que ces comptes ont été ouverts dans les banques commerciales, dans le souci d'atténuer les risques des défauts de trésorerie éventuels qui se présenteraient?
Ça signifie implicitement que le ministre des Finances n'a pas confiance à la Banque centrale. C'est ce que cela veut dire. Je comprends parfaitement que le gouvernement ne fait pas confiance à la Banque centrale. Je ne porte pas un jugement de valeur sur son attitude vis-à-vis de la Banque centrale, mais avec raison ou avec tort, Dieu seul sait, mais je le constate. qui n'ont pas confiance. Et c'est comme ça qu'ils sont passés par des voies détournées. C'est pour ça qu'ils contournent la Constitution en ouvrant des comptes directement dans des banques, des comptes qu'ils peuvent actionner eux-mêmes directement sans passer par l'organe qui a la responsabilité légale d'assurer la garde des fonds publics.
Et là, on connaît seulement la situation chez Access, alors qu'il y a d'autres comptes dans d'autres banques aussi.
Exactement. Et cela me pousse à dire, en tant que patriote, qu'au niveau où on se trouve aujourd'hui, il ne faudrait même pas qu'on attende des résultats de la commission d'enquête parlementaire qui vient du Sénat. Le procureur général de la République devrait déjà d'office se saisir de cette question à partir du moment où, dans la bouche du ministre des Finances, il confirme en fait des irrégularités. Il a même demandé à Access Bank de régulariser des situations. Access Bank, en quelque sorte, volait de l'argent de l'État, les 680 millions de
dollars. Il accepte de rembourser.
Volé par le Parlement. Et en plus du fait que Access Bank a surfacturé les situations des irrégularités, le ministre des Finances n'a pas nié non plus l'existence d'un accord secret entre la même banque et le BCECO, au terme duquel accord, il y a des fonds qui reviennent à l'État, placés à long terme, et qui rapportent des intérêts à des personnes mal identifiées.
Oui.
Et ça, je crois qu'un tel accord devrait interpeller la justice de notre pays pour constater à partir de son massif que les finances publiques sont gérées de façon, à mon avis, calamiteuse. Et par rapport à cela, le procureur général de la République, qui est de surcroît un pasteur, qui devrait être le premier apôtre de la justice dans ce pays, devrait se saisir de ce dossier, surtout que c'est son prédécesseur,
Mungulu,
pour qui il faut avoir beaucoup de respect, parce qu'il y a eu beaucoup de perspicacité dans sa question, avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'élégance, il est quand même parvenu à nous faire voir, à nous tous les Congolais, qu'il y a un problème au niveau de la gestion des finances publiques. Venant d'un prédécesseur qui a quand même une grande expérience, je crois que le procureur de la République devait se sentir en quelque sorte motivé. Parce que lui aussi, on aura besoin de son expérience un jour. Même si je formule un peu de crainte par rapport à la mise en garde d'un autre ancien procureur général de la République, qui se trouve être le président du Sénat actuel, qui dit qu'il faut y aller avec tac et doigté parce que nous avons besoin des banques qui viennent ici et nous font confiance et donc il ne faut pas trop les bousculer. Je crois que ça, c'est une façon
de couvrir le mal,
l'enquête qui doit être faite. Je pense qu'il fallait le président Kengo, ancien procureur général de la République, dont on reconnaît d'ailleurs la sévérité quand il était dans ces fonctions-là, devrait laisser la commission parlementaire effectuer ses enquêtes clairement. Si on tombe sur une banque qui est une banque voleuse, elle doit être sanctionnée. S'il faut la fermer, s'il faut la radier, il faut le faire. Je crois qu'on n'a pas de compromis, d'arrangement qu'on puisse faire avec des structures qui viennent pour spolier les ressources nationales, les ressources du pays, alors que les Congolais croupissent dans la misère.
Nous comprenons que nous avons beaucoup à dire par rapport à ce sujet, mais laissons d'abord le temps aux sénateurs de procéder à l'enquête et on va suivre de près ce dossier. À quoi va aboutir cette enquête? Le temps de prendre ce deuxième dossier de la semaine, dossier qui nous conduit donc à Kananga, au Kasaï occidental. La synergie des jeunes étudiants catholiques de Kananga a organisé une journée culturelle le week-end dernier. C'était pour réfléchir sur la problématique de la détention des diplômes et l'accès difficile à l'emploi dans la ville de Kananga après les études.
Les orateurs à ces conférences débats ont orienté leurs exposés sur la préparation à l'emploi. Je vous propose d'écouter Bruno Kabamba Kankonde, conseiller consultant du mouvement international des étudiants catholiques du Kasaï occidental. Il parle ici des freins de l'accès à l'emploi. Il est au micro d'André Kambala Mujanai.
Et il s'agit bel et bien du manque d'emploi sur la ville de Kananga. Nous avons essayé un peu d'évaluer après notre monitoring. Nous avons compris que le problème qui pourrait abattre record dans les jours à venir, c'est le manquement d'emploi chez les jeunes.
Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation?
La mauvaise volonté. Nous partons de la mauvaise volonté en première position des employeurs. La deuxième conception, c'est la non-implication du gouvernement dans les activités et dans les affaires de structure des jeunes, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous proposez?
Que les autorités s'impliquent dans la recherche d'emploi, que les gouvernements s'ouvrent beaucoup plus sur les projets de la multiplicité des entreprises au Congo, dans toutes les provinces, pour que les jeunes se retrouvent.
Bruno Kabamba, Monsieur Michel Somoué, vous êtes professeur d'université, je le dis comme ça. Face à des étudiants qui sortent des universités et qui se plaignent comme ça, qui ne savent pas accéder à l'emploi, supposons qu'ils sont encore sur le banc de l'école, sur le banc des études, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. et que c'est beaucoup de choses interpellent la responsabilité de chacun de nous dans les défis de l'organisation de notre société. Parce que la question de l'emploi est une question d'ordre macroéconomique, et j'enseigne la macroéconomie approfondie à l'université justement. C'est une question d'ordre de la gestion économique, et plus précisément de la gestion macroéconomique. Il est, à mon humble avis, malheureux qu'un gouvernement se réjouisse de la maîtrise de l'inflation jusqu'à la ramener aux abords de la déflation en laissant pour compte des millions, des chômeurs. C'est comme si nous devons obtenir la stabilité macroéconomique, plus précisément la stabilité des prix, par un très fort d'un chômage excessif qui va au-delà de 90%. C'est le même programme du gouvernement qui avait chiffré le chômage dans ce pays à 94%. Mais à quoi ça sert d'avoir un taux d'inflation de 1% contre un taux de chômage de 94%?
Alors, monsieur Michel, je ne veux pas vous couper la parole. Et puisqu'on y est déjà, on est dans déjà le dossier de l'emploi, du social. Abordons ce troisième dossier avec la situation qui se passe à la SONAS. Et d'un coup, vous allez ramasser la situation avant de passer à autre chose. Donc, je disais, retour à Kinshasa pour parler de la situation qui se dégrade davantage à la Société Nationale d'Assurance avec la grève des agents et cadres qui ont décrété lundi un sit-in illimité à leur direction générale.
Leur revendication. Les revendications sont restées les mêmes, c'est-à-dire le paiement des arriérés des salaires, le départ du comité de gestion. Mais la tâche n'a pas été facile, surtout cette semaine. Leur sit-in a été brutalement dispersé par la police dépêchée sur les lieux avec de gaz lacrymogène, laquelle police a procédé même à quelques interpellations. Mais ces agents disent qu'ils ne vont pas désarmer. On écoute l'un d'entre ces agents.
Ici, c'est le sitting à durée illimitée devant les sièges sociaux de la SONAS pour revendiquer les paiements de tous les arriérés, tous les actifs et les retraités, au siège comme dans toutes les agences SONAS. Deuxièmement, nous réclamons les paiements intégrales des indemnités de carrière de tous les retraités. Troisièmement, nous réclamons l'organisation des élections syndicales. Quatrièmement, nous réclamons la nomination d'un nouveau comité de gestion à la SONAS. Et cinquièmement, nous réclamons la réhabilitation des 5 délégués syndicaux licenciés illégalement. Les agents se sont constitués en collectif de cadres et agents. Ils réclament les arriérés des salaires. Tout ce que je vous ai donné comme revendication, c'est ce que les agents réclament. Et que l'État vienne mettre de l'ordre un nouveau comité de gestion. Parce que Mme Caron est seule au comité de gestion. Ça fait maintenant 6 ans. J'ai jamais vu. Elle dit qu'elle a hérité des arriérés, elle a hérité ça. Mais elle était dans le comité de gestion Herman. Et Herman a été suspendu. Donc comment dit qu'elle a hérité des arriérés? C'est invraisemblable cela.
Voilà, de l'autre côté, on se plaint, on ne sait pas accéder à l'emploi. Et de l'autre, ceux qui ont de l'emploi, l'emploi n'est pas protégé. Mmh. Et voilà, les manifestations et ces agents disent avoir frappé à la porte de la direction générale, qui est restée muette. Ils ont frappé au ministère du Travail, sans réponse, au ministère de Portefeuille. Oui, la même chose, à la primature, aucune réaction. Et c'est plutôt la police qu'on appelle et on les met à la chasse de ces agents. Comment vous réagissez, M. Soumoué?
Franchement, je ne voudrais pas trop commenter l'attitude de toute cette chaîne de commandement que vous avez évoquée, qui garde un grand silence par rapport aux revendications des citoyens congolais. Mais je voudrais plutôt noter justement cette inadéquation criante entre les revendications des agents, justement, et la réponse que moi j'ai entendue de la bouche de Madame Carole Aguito face à ces revendications. Une inadéquation totale. Mais ces gens disent que nous avons 26 mois d'impayement et ils réclament. Et vous vous dites, j'ai hérité de cette situation, c'est habituel, on accuse encore une fois comme d'habitude Mobutu et la Deuxième République. C'est encore une réponse toujours stéréotypée que l'on entend dans toutes les bouches de tous les dirigeants. Chaque fois que ça ne marche pas, la réponse est simple, c'est Mobutu et sa Deuxième République qui sont à la base de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors pourquoi vous avez accepté d'assumer des responsabilités publiques dans une entreprise dont vous savez que vous n'avez pas de réponse face à l'héritage de Mobutu? Parce que si Mobutu est parti de ce pays, c'est que nous avons voulu un changement. Nous avons souhaité que les choses soient gérées autrement. Et en plus de ça, on a même mis en place un copyright pour la réforme des entreprises publiques. Mais jusqu'à ce jour, je constate malheureusement qu'une entreprise aussi stratégique que la SONAS n'a jamais compris qu'elle est une institution financière au même titre que les banques que nous avons dans ce pays. Parce qu'elle ne joue pas son rôle d'institution financière. Vous savez que la SONAS est un établissement d'épargne contractuelle, c'est-à-dire un intermédiaire financier qui doit lever des ressources dites des ressources à long terme pour les mettre à la disposition de l'économie nationale et faire fonctionner de cette façon le fameux marché financier que nous attendons encore, qui n'arrive toujours pas dans ce pays. Ce sont qu'on appelle des structures, des ressources longues. Et c'est ce qui se trouve du côté de la SONAS, comme du côté de l'INSS également. Ce sont des institutions stratégiques dans l'industrie financière dans tous les pays du monde. Mais la SONAS n'a jamais joué le moindre rôle par rapport aux défis financiers que nous avons dans ce pays. Pis encore, elle n'est pas capable de relever ses propres défis en rapport avec le paiement de ses fonctionnaires. L'intérêt de l'État à protéger une telle structure, je ne le vois plus, à mon humble avis. Et je pense que, en tout patriotisme, il est important que le chef de l'État pense à mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est important. Je le dis parce que il se plaint, le chef de l'État, il s'est plaint il y a quelques années sur dans les lignes.
Que si seulement il avait 15 personnes dire, autour de lui.
Je n'ai même pas besoin, je cite les mots du chef de l'État tel qu'il était dit, pas comme je les entends chez nous ici. Moi, j'avais lu son interview sur New York Times, quand je me trouvais à New York à cette époque-là. Le chef de l'État a dit, je n'ai même pas besoin de 15 personnes pour changer la situation de mon pays.
Vraiment.
Il me suffit de trouver 5, 6 ou 7 bons collaborateurs et le Congo va changer. Mais je constate malheureusement que à la tête de toutes les entreprises publiques, il y a le même problème. Les agents se plaignent tous les jours et en réponse, on appelle la police pour les chicoter. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, André Kimbuta, un grand frère que je respecte beaucoup, a même déclaré qu'il va envoyer ses agents de la SONAS qui sont en train de faire la grève, celui que la police va attraper prochainement, on va l'envoyer dans un centre de formation militaire ou qu'il devienne des policiers ou des militaires, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la réponse qu'on peut donner à quelqu'un qui revendique son salaire?
Est-ce que
le salaire n'est pas un droit dans ce pays? Est-ce que garder quelqu'un impayé pendant 26 mois, pendant 260 ou 280 mois comme à l'OCPT, pendant plus de 60 ou 100 mois au LAC, est-ce que ça, c'est responsable de la part de ceux qui dirigent le pays? Je crois quand même qu'il y a des choses qui appellent une certaine conscience et une certaine moralité et une certaine sincérité quand on accepte les charges publiques et quand on s'engage dans les charges publiques. Quand on n'est pas incapable, on démissionne. C'est aussi de l'honnêteté, de la sincérité et c'est de la respectabilité. Et quand il se respecte, quand il se rend compte que je suis contesté et que je suis incapable de donner des réponses aux questions qui me sont posées, aux problèmes qui me sont posés, eh bien, on rend le tablier aussi simple que ça. On
ne s'accroche
pas pour évoquer la Mobutu et sa deuxième république qui sont déjà décidées il y a longtemps.
Et je dis à tous ceux-là qui viennent de se joindre à nous que vous suivez Panorama économique, c'est la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. C'est un rendez-vous de tous les samedis, 12h30, heure de Kinshasa.
Panorama économique, matière première.
Des économistes du pays venus de différents horizons ont réfléchi pendant 4 jours sur les règles budgétaires que la RDC peut adopter pour promouvoir les investissements publics et la croissance économique. Clôturé à Kinshasa le jeudi, cet atelier a été organisé par le projet de renforcement des capacités en gouvernance financé par la Banque mondiale. Mais comment résoudre l'inadéquation entre les ressources naturelles et la pauvreté criante de la population avec la stabilité du cadre macroéconomique en RDC? Pierre-Richard Aguénor, animateur principal de cet atelier, il est professeur de macroéconomie à l'Université de Manchester en Angleterre. Il répond au micro de François Kadima.
Il n'y a pas d'inadéquation fondamentale. Ce que l'on constate d'une manière générale, c'est que souvent les pays riches en ressources naturelles ont paradoxalement des indicateurs de développement humain, y compris la pauvreté, mais pas limité à la pauvreté, qui sont relativement faibles par rapport à des pays de niveau de revenus équivalent et sans ressources naturelles. C'est ce qu'on a appelé la malédiction des ressources et elle est liée à beaucoup de choses, mais l'intérêt des discussions qu'on a eues pendant ces 3 jours, c'est justement d'attirer l'attention sur les risques ou sur les facteurs qui peuvent causer cette malédiction. Donc, ce que j'espère, c'est que les discussions qu'on a eues aideront les décideurs à penser à cette question.
Monsieur Michel Somoué, c'est vous qui commentez l'actualité avec nous. 2 derniers dossiers, d'abord pour les matières premières. C'est un paradoxe entre la richesse naturelle que regorge la RDC et la criante pauvreté dans laquelle vit la population. Vous avez suivi le professeur Aguénor qui parle des ressources qui sont mal gérées, qui sont mal dépensées. Il parle plutôt, il faut renforcer la gouvernance en cette matière-là.
Oui, c'est exact. C'est exact. En rectifiant une petite chose, c'est que le professeur Aguenor, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas une adéquation fondamentale entre cette abondance de la dotation naturelle et la pauvreté criante du peuple congolais, je crois qu'il a tenu un discours qui n'est pas très très scientifique là-dessus. Car l'inadéquation est claire et nette, et c'est ce qu'il demande d'ailleurs en parlant de la malédiction justement de matière première, s'abondant de matière première. Mais écoutez, le problème c'est que nous sommes en crise d'un modèle de gestion macroéconomique. C'est ça notre problème. Nous sommes focalisés à des principes caducs d'un équilibre macroéconomique fondé essentiellement sur les équilibres budgétaires, de la stabilité monétaire. Et ça, je crois que ça devrait être dépassé par les chercheurs, et nous travaillons dessus. Je crois que le véritable équilibre macroéconomique dans un pays devrait être assuré en termes d'adéquation entre la dotation du pays en ressources naturelles, ou même en ressources tout court, y compris des capacités humaines et autres, et les conditions de vie du peuple habitant ce pays-là. Ça serait ça, le véritable équilibre macroéconomique que l'on devrait défendre par les économistes, mais qui, malheureusement, ne se trouve dans aucun des modèles de gestion macroéconomique que nous connaissons. Nous avons le socialisme, nous avons le capitalisme, nous avons ce que vous avez comme modèle de gestion des économies. On parle des économies sociales de marché, on parle des économies libérales, on parle tout ça. Mais rien de tout ça ne nous donne un véritable modèle qui puisse nous permettre d'assurer une adéquation entre ce que nous avons ou ce que nous pouvons effectivement et ce que nous sommes aujourd'hui dans la réalité. C'est là, c'est justement l'interpellation que nous fait un des grands économistes du monde, Paul Krugman, qui reconnaît avec moi que tous les modèles de croissance économique, tous les modèles de gestion macroéconomique sont désuets. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Un pays comme le Congo devrait être justement, à mon humble avis, la source d'une telle réflexion, parce que nous sommes un cas tout à fait typique de cette inadéquation.
Et puisque le temps va très vite, nous sommes aujourd'hui le 10, hier c'était le 9 mai, ça faisait 2 ans comme ça que Matata Ponyo est à la tête du gouvernement de la RDC. Si on vous demandait par exemple, vous Michel Somoué, de faire un petit bilan de ces 2 ans sur le plan économique, qu'est-ce que vous diriez? En tout cas, je me réserve, je ne l'ai pas encore vu faire son propre bilan à lui, je me réserve de tout commentaire, mais vous êtes économiste, vous êtes professeur de la macroéconomie. Si je vous demandais par exemple de faire un petit bilan, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais 2 mots. Le premier mot, c'est que le bilan du gouvernement doit se faire à la lumière du programme qu'il s'est lui-même imposé et qui a été accepté au niveau du Parlement. Et ça veut dire par rapport aux objectifs que le gouvernement s'est assigné, il est lui-même plus que conscient pour nous dire qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce programme en termes de quantité et même de qualité. C'est important. Parce que tout programme doit être quantifié. Si nous devons quantifier ce que le programme a fait, ce que le gouvernement a fait pendant les 2 ans de son existence, il lui reste 3 ans. Comme chef de l'État, le gouvernement par rapport à ces 2 ans devrait nous dire parce qu'en fait il a fait un programme de 5 ans, 2012-2016. Il devrait nous dire par rapport à l'échéance 2016 qu'est-ce qu'il estime quantitativement avoir réalisé, est-ce que c'est beaucoup par rapport à ce qu'il doit, est-ce qu'il reste peu, je crois qu'il est mieux placé pour le faire.
Il faudra aussi avoir à l'esprit.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il n'est pas honnête de la part de quiconque de dire que le gouvernement n'a rien fait, parce que même un enfant qui apprend à marcher, il fait toujours quelque chose de chaque jour qui passe. Le problème n'est donc pas de savoir est-ce que le gouvernement a construit ou pas une route, est-ce que le gouvernement a construit ou pas une école. On sait que le gouvernement n'est gouvernement que dans la mesure où il peut réaliser un minimum de ses obligations du pouvoir régalien. À partir du moment où le gouvernement a fait ce qu'il a fait, on ne peut plus juger son bilan par rapport à est-ce que ça existe ou pas. On doit juger son action par rapport à est-ce que ce qu'il a fait est-il compatible avec le temps qu'il a mis pour le faire. Par exemple, on peut se poser la question, encore une fois je reviens à ce qu'il disait avant, combien de kilomètres de route le gouvernement est-il capable de nous donner par an dans un pays où nous avons besoin d'environ 60 000 kilomètres de route pour désenclaver le Congo? Et combien d'années il nous faut pour y parvenir? C'est ça la grande question qui apprécie l'efficacité de l'action du gouvernement. C'est pas l'action en elle-même, mais son efficacité. Est-ce que le gouvernement est-il capable, est-il efficace, peut-il nous donner dans les délais voulus ce que nous attendons pour nous sortir dans ces délais? de la situation que nous traversons aujourd'hui. Voilà, mon avis,
voilà,
les principes directeurs d'une analyse qu'on peut faire. Dans les détails, je suis disposé à en discuter à d'autres occasions. Je vous remercie.
Et c'est par ce questionnement de notre invité Michel Somoué que nous refermons Panorama économique de cette semaine. Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radiookapi.net. Alain Ngoy était à la prise de son. François Kadima et Daniel Tambizoni, tout le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. Au revoir et à la semaine prochaine.